Chères sœurs et frères du monde francophone, mes salutations fraternelles à vous tous. Que la paix de Jésus-Christ demeure toujours en vos cœurs, surtout au fur et à mesure que ce monde qui ne connaît pas la paix est de plus en plus dans des troubles qui vont empirer jusqu'à la fin, mes amis. Jusqu'à ce que Dieu va intervenir, jusqu'à ce qu'il intervienne pour apporter la paix au monde. Une paix que nous pouvons déjà jouir dans notre intérieur quand notre temple, notre corps, le temple du Saint-Esprit, éprouve les fleuves d'eau vive qui sortent, qui jaillissent du cœur de ceux qui sont convertis. Une bénédiction merveilleuse d'avoir la paix que le Christ nous a promis. Chers sœurs et frères, on est maintenant dans une époque de l'année où la Pâque s'approche. J'aimerais qu'on considère aujourd'hui un élément absolument fondamental dans notre vie spirituelle, sans lequel on ne peut rien construire, sans lequel Dieu ne peut pas agir en nous et nous transformer. Donc, on va aujourd'hui parler de cet élément, de cette vertu fondamentale qu'il nous faut cultiver jusqu'à la fin et persévérer toujours dans cette attitude jusqu'au bout, mes chers amis. On a des exemples de gens qui ont bien commencé, mais qui n'ont pas fini la course. On en fera aujourd'hui, on pourra voir quelques exemples. Mais d'abord, quel est cet élément absolument essentiel, mes chères sœurs et frères? Voyons un petit peu comment le Christ a commencé sa prédication, et ça nous donne déjà une idée de l'ordre dans lequel il met son plan pour nous, mes chers frères et sœurs. Au chapitre 4 de l'Évangile de Matthieu, je vous invite à chercher cette écriture. Au chapitre 4 de l'Évangile de Matthieu, nous allons voir comment le Christ a commencé à prêcher la bonne nouvelle, la nouvelle qui nous réjouit dès maintenant, mes amis, quand nous cultivons la vision claire d'un monde merveilleux, le monde à venir qui s'approche malgré les ténèbres présentes. Dieu nous permet de percer et d'aller au-delà grâce à la lumière de l'Esprit. Mes chers amis, mes chères sœurs et frères, voyons par exemple au chapitre 4, Matthieu, chapitre 4 et verset 17. Et nous voyons comment est-ce que le Christ a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Chapitre 4, verset 17 de l'Évangile de Matthieu. Lisons. Et ce que nous dit la parole de Dieu ici, dès ce moment, Jésus-Christ commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, il y a deux éléments qu'il présente tout d'abord, c'est le repentir ou la repentance, et puis le message du royaume des dieux. Pourquoi faut-il le repentir, mes amis? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie personnelle? Se repentir, c'est d'abord commencer à voir nos erreurs grâce à la lumière de l'Esprit qui d'abord nous guide à la repentance ou au repentir, et grâce à la loi des dieux où on commence à comprendre nos transgressions et à voir la réalité de nous-mêmes devant la lumière de la face des dieux. Mes chers sœurs et frères, voyons par exemple comment l'apôtre Paul, au chapitre 2 de l'épître aux Romains, il nous parle de ces sujets, mes chers amis. Comment il y a un changement qui commence à s'opérer en notre vie au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu vient et commence à nous guider vers ce repentir que nous allons voir ici au chapitre 2 et verset 4. Épître aux Romains, chapitre 2, verset 4. Voyons est ce que nous dit l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, au Romains, chapitre 2, verset 4. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» La repentance, c'est le changement qu'on voit nécessaire une fois qu'on s'aperçoit de ce qu'on a fait, de nos transgressions vis-à-vis de la loi de Dieu, grâce à la lumière de l'Esprit qui nous guide. Et chaque jour et chaque année, avant la Pâque, c'est une époque pour nous examiner nous-mêmes, grâce à la lumière de Dieu qui demeure déjà en nous, mais qui nous aide toujours, mes amis, à conformer notre être de plus en plus à notre Maître, pour être comme notre Maître, pour nous transformer des gloires en gloire, dans la même image, comme le dit l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut reconnaître une réalité, mes amis, parce que ceux qui disent qu'ils n'ont pas péché, même après le baptême, on ne pratique pas le péché, mais on tombe de temps en temps, on fait des fautes, mes amis, on a des transgressions desquelles il faut se repentir pour que Dieu puisse nous transformer. Il faut les reconnaître d'abord. Qu'est-ce qu'il faut alors pour les reconnaître? Quelle attitude faut-il en nous? Mais le Christ, en revenant, s'il vous plaît, au livre de Matthieu, au chapitre 5, après avoir commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume des dieux, le Christ, il monte, il gravit la montagne, il s'assoit, et alors il commence à nous présenter ce qu'on connaît comme les sermons sur la montagne, les béatitudes. Et nous allons voir qu'il y a quelque chose qui correspond au début de sa prédication. Il a dit « Repentez-vous, car le royaume des dieux s'approche ». Donc, ici, quand il monte, quand il gravit cette montagne où il s'assoit, il y a un élément qu'il nous présente tout d'abord. Parce que sans celui-là, il n'y a pas de fondement possible. Allons voir, mes amis, de quoi il s'agit, mes chers sœurs et frères. Au chapitre 5, Matthieu, chapitre 5, et verset 1. Nous voyons ici ce qu'on connaît comme, je vous l'ai déjà dit, le sermon sur la montagne, les béatitudes. Voyons donc quelle est la toute première de ces béatitudes dont il nous parle, notre Maître. Chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Voilà la condition essentielle, être pauvre en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, dans des termes un peu plus modernes, mes chers amis? Qu'est-ce que la Bible veut nous dire quand la parole de Dieu parle des pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux? Pauvre en esprit, bien sûr, c'est quand on commence, quand le procès de la repentance commence en notre cœur, on commence à voir une réalité, mes chers amis, notre propre réalité. On n'est plus déçu, on ne se trompe plus, on n'est plus séduit, mes chers amis. Il y a une réalité qui commence à s'ouvrir devant nos yeux. Nous allons voir, par exemple, comment Dieu, il décrit dans la Bible elle-même qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre en esprit. Voyons, par exemple, le chapitre 58 du livre de Isaïe, mes amis, ou Ésaïe. Ésaïe, chapitre 58, nous allons voir la définition que la Bible nous donne pour que nous commencions à comprendre de façon un peu plus profonde. Au chapitre 57, excusez-moi, chers amis, Ésaïe, chapitre 57, Et puis, voyons le verset 15. Chapitre 57, verset 15. L'Éternel parle et il dit, Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. D'ailleurs, il y a une meilleure traduction. Ça veut dire qui habite l'éternité. C'est-à-dire, c'est sa dimension qui est en dehors du temps et de l'espace que nous connaissons, physique. Il habite l'éternité, où le temps n'a jamais commencé, mes chers amis. Et la mesure de l'espace est sans fin et qui nous dépasse. Donc, c'est une meilleure traduction, si vous voulez garder ça dans votre esprit. Car ainsi parle le Très-Haut, Ésaïe 56, verset 15, dont la demeure est éternelle, je vous dis à une meilleure traduction, qui habite l'éternité, une dimension qui est en dehors de la nôtre, qui nous dépasse, mes amis, mais il nous regarde de cette dimension parce que rien n'échappe aux yeux de l'Éternel, même le cœur des hommes devant lui, comme dit l'Écriture, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Ça, c'est un autre sujet qu'il faut que nous, on explique un peu plus, qu'on médite là-dessus, la sainteté. Mais ici, on continue. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ce que Dieu nous dit. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Voilà, ça c'est la repentance. L'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits. Donc, comme David a dit, Dieu ne refusera pas un cœur contrit, un cœur broyé par la douleur, parce qu'on voit sa réalité. On se repentit. Ça, c'est déjà, on commence déjà à décrire qu'est-ce que le Christ a voulu dire quand il a parlé de ceux qui sont heureux parce qu'ils sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voyons encore une autre écriture qui nous explique ces concepts dont le Christ parle tout au début du sermon dans la montagne. Au chapitre 66, et verset 2, on peut commencer au verset 1 du même livre d'Ésaïe, chapitre 66, voyons et lisons ensemble. Ésaïe, chapitre 66, verset 1, et puis on va lire les suivants aussi. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?» Donc, il est déjà en train de nous montrer cet aspect merveilleux, sublime, parfois presque incroyable, du nouveau pacte, de la nouvelle alliance, par laquelle Dieu, le Père et le Christ, ils demeurent en nous, par l'intermédiaire de l'Esprit, et notre corps devient un temple de l'Esprit des dieux. C'est tellement sublime, mes amis, que parfois il est difficile à saisir la grandeur de ce que Dieu est en train de faire en nous, poussière de la terre, mes amis. Lui qui habite dans des lieux élevés, et lui il demande encore, « Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?» Toutes ces choses, ma main les a faites. Il voit l'univers, et les cieux des cieux ne peuvent même pas les contenir. Telle est la grandeur de Dieu. Je voyais hier des photos du télescope Hubble qui sondent les profondeurs de l'univers, mes amis. Et ça nous donne un petit peu plus l'idée de la grandeur de notre Dieu et combien il est grand et il nous regarde et il nous aime. Il veut nous convertir en sa famille, mes chers amis. Toutes ces choses, ma main les a faites, verset 2. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Parce que, comme c'est écrit, il a parlé et ça a existé. Voici sur qui je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est le même concept qu'on vient de lire au chapitre 57. C'est-à-dire quelqu'un qui rencontre face à face sa propre réalité devant la grandeur et la sainteté de Dieu. Sur celui qui craint ma parole ou qui tremble à ma parole, comme il y a d'autres traductions qui le disent, celui qui immole, enfin, on peut s'arrêter là, sur celui qui craint ma parole, et vous pourriez même d'autres traductions en anglais et dans d'autres langues disent celui qui tremble à ma parole. Donc, on peut conclure, donc, si on trouve ces définitions, le Christ est en train de parler d'un élément essentiel qui s'appelle l'humilité, mes chers amis. C'est ça la description de l'humilité. Être pauvre en esprit, ça veut dire être conscient de sa propre condition et avoir un esprit contrit devant la bonté de Dieu qui nous a menés, qui nous a conduits vers la repentance et qui nous donne une connaissance de ce qu'il veut en nous, la transformation qu'il veut opérer en nous. Mais il faut commencer d'abord pour se voir tel qu'on est. Et ça, c'est un miracle que seulement l'esprit de Dieu et la loi de Dieu ensemble en nous peuvent faire, mes chers amis. Donc, le Christ, il est en train de parler ici, si on voit heureux, chapitre 5, verset 3, en revenant à l'évangile de Matthieu, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi dit-il que le royaume des cieux est à eux? On va, mes amis, faire un contraste avec l'orgueil qui est l'opposé de l'humilité, qui est l'opposé de cette définition biblique d'humilité qui emploie aussi les équivalents et de pauvre, la pauvreté en esprit. Être pauvre en esprit, dans la Bible tout au long, ça veut dire l'humilité. Et donc, on voit un contraste, on va voir tout de suite, mes chers amis, entre l'humilité et l'orgueil. Pourquoi il dit, et le met tout d'abord, mes chers amis, c'est le fondement même. Sans cela, il n'y a pas de place pour que Dieu puisse venir demeurer en nous. Parce que l'orgueil devant Dieu est une abomination, mes chers amis. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à haïr, nous autres, parce que la crainte de Dieu, et c'est une des conditions dans lesquelles le pauvre en esprit a la crainte de Dieu et sa parole, c'est de détester ou de haïr le mal, comme dit le livre des Proverbes au chapitre 8, mes chers amis. Mais voyons par exemple une autre écriture au chapitre 16 du livre des Proverbes, mes chers amis. Chapitre 16 et verset 5 du livre des Proverbes. Donc on voit déjà quelques raisons par lesquelles le Christ a commencé le sermon dans la montagne en parlant de la pauvreté de ceux qui sont pauvres en esprit, de l'humilité comme le fondement même ou le début même sur lequel Dieu peut commencer à construire une transformation dans notre être. Il faut se voir tel qu'on est, mes chers amis. Chapitre 16 et verset 5 du livre des Proverbes, s'il vous plaît, mes amis. Chapitre 16 et verset 5. Voyons ce que nous... Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Donc, c'est la raison par laquelle Dieu veut que nous soyons tout d'abord, que nous ayons cette humilité ou que nous, qu'on soit pauvres en esprit, qui est la même chose. Parce que l'orgueil et le cœur hautain est une abomination devant les yeux de l'Éternel. Pourquoi? Mes amis, on va voir l'histoire de l'univers qui nous est révélée dans la Bible. Il n'y a pas d'autre livre qui puisse nous dire ce qui est arrivé avant la création de l'homme. Les drames qui s'est déroulé, nous pouvons voir l'origine donc de l'orgueil et la raison par laquelle l'humilité est le fondement même et la toute première chose dont Dieu se sert ou que Dieu veut nous transférer de lui-même, parce que le Christ lui-même, Vous voyez, s'il vous plaît, il dit « Apprenez de moi, qui suis humble d'esprit ». Voyons ça dans le chapitre 11 du livre de Matthieu, mes chers amis. Chapitre 11 du livre de Matthieu, on le voit au verset 28. Matthieu, chapitre 11 et verset 28, dont le Christ lui-même, il nous donne un exemple personnel d'humilité pour que nous apprenions qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre en esprit. Il dit ici au chapitre 11 et verset 28 de l'évangile de Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc il dit, « Prenez mes instructions », ça veut dire « Apprenez de moi ». Suivez mon exemple. C'est ça ce que cette expression veut dire. Recevez mes instructions, ça veut dire apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il parle sans doute de sa loi. On pourrait expliquer ça, mais ce n'est pas le moment. Donc, le Christ, l'exemple même de l'humilité, comme on va voir un peu plus tard, au fur et à mesure qu'on fait cette exposition ici devant vous, mes chers amis, de ce concept fondamental que Dieu veut que nous apprenions. Maintenant, on va voir la raison par laquelle Dieu insiste dans l'humilité ou le besoin ou qui est essentiel qu'on soit pauvre en esprit. Voyons le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel, et nous allons voir comment est-ce que l'orgueil a commencé et pourquoi Dieu le déteste et comment cet être qui est le premier qui est devenu orgueilleux, le premier qui a défié l'autorité des dieux à cause de l'orgueil, comment il ne s'est pas soumis à ce gouvernement d'amour des dieux. Et nous allons voir l'histoire ici pour que nous apprenions les leçons fondamentales, ce qui est arrivé avant la création de l'homme, parce que Satan était déjà l'adversaire quand Adam et Ève ont été créés. Donc voyons le chapitre 28, s'il vous plaît. Au chapitre 28, verset 12, Ézéchiel, chapitre 28, Ézéchiel, chapitre 28, verset 12. Et nous allons voir ici une description de l'origine de l'orgueil. C'est le premier qui a été jeté en dehors du gouvernement des dieux, du royaume des dieux, si vous voulez, parce que la montagne des dieux, ça veut dire le royaume des dieux. Et le Christ est monté sur une montagne pour nous dire quelles sont les conditions pour monter à la montagne du royaume des dieux pour l'éternité et la toute première et l'humilité, parce que c'est le premier être qui a été jeté de la présence des dieux, c'est quelqu'un qui était l'opposé de l'humilité. Donc, voyons ici les leçons que Dieu nous présente pour que nous voyons la cause, pour que nous voyons l'origine. Au chapitre 28, s'il vous plaît, au verset 17, Ézéchiel, chapitre 28, verset 17. Disons un peu plus, je cherchais du milieu des pierres, voilà. Tu étais un chérubin. Oh, excusez-moi, mes amis. J'aimerais qu'on commence au chapitre 28, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. On va voir quelle est son identité tout de suite après. Vous le connaissez bien, ce texte, mes chères sœurs et frères. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, donc il a été créé parfait par Dieu. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Puis il décrit toutes les pierres. Et puis, un peu plus bas, il dit tes tambourins et tes flûtes était à ton service préparé pour les jours où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Donc, le roi des tirs ne peut être autre que Satan lui-même, ou Lucifer, avant sa rébellion. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, il gardait le trône des dieux avec, on connaît dans l'Église, d'après les enseignements, l'Église comme un pilier de la vérité nous dit que, en toute probabilité, il y avait Michel, l'archange, et Gabriel qui étaient en charge chacun de entière des anges que Dieu avait créés et que Lucifer était en charge de l'autre tiers des anges. Donc, il dit ici, au verset 14, « Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne des dieux. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Donc, c'est par son propre choix que l'iniquité est rentrée chez lui. Il n'a pas été fidèle, mes chers sœurs et frères. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. L'une des traductions possibles pour dire la grandeur de ton commerce, c'est la grandeur de tes murmurations. Il n'était pas content avec la place que Dieu lui avait donnée, mes chers amis. Et nous allons voir, ça c'est l'origine de l'orgueil. Quand on croit qu'on est quelque chose qu'on n'est pas. C'est une tromperie, c'est une séduction de l'esprit, mes chers amis. Ceux qui sont orgueilleux, ils se trompent, ils s'abusent eux-mêmes, mes chers sœurs et frères, en ayant un concept d'eux-mêmes et de dirais de nous-mêmes, parce que moi-même, je suis victime, j'ai encore cette influence en mon corps, mes chers amis, que nous devons toujours lutter contre avec le pouvoir des dieux. Je ne prétends pas l'avoir déjà atteint, cet état d'esprit et d'humilité que le Christ avait. Je sais qu'en moi, il y a de l'orgueil. Encore, mes chers amis, je ne prétends pas de me justifier, mais c'est une séduction, comme on va le voir tout de suite après. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Il semble donc, d'après des traductions et en cherchant la signification, la grandeur de ton commerce, c'est la grandeur de ses murmurations, c'est sa campagne politique contre Dieu. Il a créé le premier parti, un tiers des anges, mes chers amis. Il les a convaincus à force de murmurations et de mensonges que Dieu n'était pas juste avec eux. C'est pratiquement la signification. Il a été rempli de violence parce que l'orgueil engendre la querelle, mes chers amis. C'est une loi spirituelle mathématique. On peut y compter, mes chers amis. L'orgueil engendre la querelle. S'il y a de la querelle en nos maisons, dans nos foyers, dans notre famille, mes chers amis, il y a de l'orgueil. Ça, c'est une formule mathématique, c'est une équation spirituelle que nous allons voir tout de suite en gardant cette écriture là où elle est. Mes chers sœurs et frères, on voit au livre des Proverbes au chapitre 13 et verset 10. Et vous allez voir pourquoi l'humilité est la toute première condition pour entrer dans le royaume des dieux, parce que la caractéristique fondamentale, c'est la paix. Le Christ est appelé le prince de paix. Donc, quelqu'un qui a de l'orgueil, qui a de la vanité, mes chers amis, qui a de la fierté, il ne peut pas y entrer. C'est pourquoi le Christ, il nous donne la toute première condition. Ceux qui sont pauvres en esprit, le royaume des dieux leur appartient et est à eux. Pourquoi ? Il n'y aura pas de querelle, il y aura la paix. Donc, c'est une loi biblique, mathématique, algébraïque, si vous voulez le dire, au chapitre 13 des Proverbes. On va la voir. Et ça nous sert pour nous commencer à nous examiner avant la Pâque, mes chers amis. Est-ce qu'il y a de la querelle dans notre vie? Est-ce que sommes-nous l'origine des querelles? Donc, on va voir ici au chapitre 13 et verset 10, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 13 verset 10, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Mais je répète, c'est seulement par orgueil. Il y a une meilleure traduction aussi, mes amis. Il faut toujours consulter plusieurs versions de la Bible. Et l'une des meilleures façons de dire L'orgueil engendre des querelles. C'est une loi spirituelle, mes chers amis. Donc, Satan, quand l'iniquité est entrée chez lui, c'est quand il a voulu remplir une fonction qui ne lui était pas donnée. Il s'est trompé lui-même. Il a cru qu'il pouvait s'asseoir sur les trônes des dieux. Et il a commencé la querelle pour atteindre quelque chose pour laquelle il n'était pas fait. C'est la même chose chez nous, mes chers amis. Dieu, il décrit l'Église comme un corps où chacun doit remplir une fonction. Du moment où un membre de ce corps ou un organe de ce corps commence à croire qu'il peut remplir une autre fonction, mes chers amis, la querelle commence. La paix commence à être perturbée, mes chers amis. C'est exactement ce qui est arrivé quand le diable, en se trompant lui-même, il s'est trompé, il s'est abusé lui-même, il a cru par l'iniquité, par l'orgueil, que lui, il pouvait remplir la fonction des dieux, mes chers amis, et c'est la guerre. Donc, l'orgueil engendre la querelle engendre la violence, mes chers amis, et ça, c'est l'histoire de l'homme depuis le début, depuis qu'ils ont entendu et ils ont suivi le chemin que le diable a montré à Adam et Ève, mes chères sœurs et frères. Donc, c'est la toute première chose qu'on doit, sur laquelle il faut réfléchir, c'est de savoir que s'il y a des querelles chez nous, mes chers amis, il y a une loi, il y a une équation biblique qui dit c'est à cause de l'orgueil. Donc, il faut nous examiner parce que si on a l'orgueil, on n'a pas la place pour Dieu en nous. Notre cœur ne peut pas être le temple de Dieu où on afflige l'esprit, mes chers amis. Donc, on continue de nouveau au chapitre 28 d'Ézéchiel. Et on continue au verset 16. Chapitre 28 d'Ézéchiel, verset 16. « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. » Donc, je vous répète, c'est à cause de l'orgueil qu'il s'est trompé lui-même. Il était séduit, il s'est séduit lui-même, si on peut dire comme ça, et il a pensé qu'il pouvait s'asseoir sur les trônes des dieux, qu'il pouvait remplir une fonction qui ne lui était pas donnée. Donc, c'est pour nous qui sommes sous l'influence du prince du pouvoir de l'air, nous avons exactement la même lutte. Et nous devons vaincre, mes chers amis, cette tendance à croire qu'on est ce qu'on n'est pas, mes chers amis. Et Dieu, il nous avertit là-dessus. Si vous voulez voir, s'il vous plaît, le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Donc, ce sont des avertissements pour nous qu'il faut considérer sérieusement avant la Pâque pour voir si on peut prendre avec dignité le corps et le sang du Christ pour devenir un avec lui, pour qu'il demeure en nous. Mais s'il y a en nous de la querelle chez nous, s'il y a de l'orgueil, on est une abomination, on n'est pas prêt pour recevoir le corps et le sang du Christ pour manger sa chair et boire son sang. Parce que lui nous dit, apprenez de moi qui suis humble d'esprit, qui a de la douceur et de l'humilité. Au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, nous allons voir au chapitre 12 et verset 3 de l'Épître aux Romains. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Voilà, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se séduire que nous on soit des victimes de la séduction de l'esprit de laquelle a été victime le diable quand il a permis l'iniquité et qu'il a commencé à agir contre Dieu, mes chers amis, de la murmuration contre le chef suprême, contre le gouvernement parfait, mes chers amis. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, voilà, il y a des fonctions à remplir et il faut l'humilité pour être là où Dieu nous place et ne pas essayer par nous-mêmes d'aller nous placer ailleurs, mes chers amis. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. La promotion vient de Dieu. Il ne faut jamais l'essayer par nous-mêmes parce qu'on va créer, mes chers amis, on va perturber la paix dans le corps du Christ. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, Lucifer a été fait pour une fonction, pour être le chef d'un tiers des anges, pour avoir ses ailes déployées sur les trônes des dieux, pour être au service de ceux qui allaient être enfantés, engendrés par Dieu. Parce que lui, il a été créé, mais Dieu avait les plans d'engendrer des enfants de lui-même, de ses entrailles, qui allaient avoir une fonction différente et supérieure. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons les dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, mes amis, il faut avoir cette humilité pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions et ne jamais essayer de prendre des fonctions que Dieu ne nous a pas données. Donc, c'est l'exemple qu'on peut apprendre ici, mes chers amis, parce que ça engendre la querelle et ça engendre la violence et la paix dans les corps commence à être perturbée. Donc, on continue ici au verset 17 du chapitre 28 d'Ézéchiel. Ézéchiel 28, verset 17. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. » Donc, nous voyons déjà qu'il y a quelque chose, quelques caractéristiques ou quelques dons qui causent l'orgueil, mes chers amis. L'une est la sagesse, comme on va voir tout à l'heure, mais ici, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Le cœur s'est élevé, c'est-à-dire il s'est trompé à cause de sa beauté. Il a oublié quelle était la source de sa beauté. Il a oublié que c'est Dieu qui lui avait donné, mes chers amis, qui lui avait donné la beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. C'est-à-dire une fois qu'on se regarde soi-même, on oublie la source de tout bien, mes chers amis, physique et spirituel. On commence à croire que nous-mêmes, on est l'origine de ces choses et donc on se trompe. La vanité, l'orgueil, c'est une tromperie. C'est une séduction de l'esprit, mes chers amis. Et ceux qui séduisent les uns, ils sont séduits eux-mêmes, comme l'Écriture nous dit. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Donc, une fois qu'on se regarde soi-même et on oublie d'où ces choses viennent, mes amis, on commence à se corrompre parce qu'on vit c'est la fraude. C'est de la tromperie, ce n'est pas la vérité, ça devient une abomination aux yeux de Dieu et ça crée la rébellion pour essayer d'atteindre ce qu'on croit qu'on mérite, mes chers amis. Je te jette par terre, je te livre au spectacle, au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. On a vu aussi que c'est des murmurations à cause du fait qu'il n'était pas satisfait de la fonction qu'il avait reçue des dieux. Quand tout lui avait été donné, la beauté, la sagesse, l'intelligence et la richesse. Tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Donc on voit clairement quel est le trajet de l'orgueil, mes amis. Ça commence par une séduction de l'esprit où l'on croit qu'on est ce qu'on n'est pas. Et c'est à cause de la querelle, mes chers amis, et c'est à cause de la rébellion, de la murmuration, de la rébellion, ça continue avec la violence et ça finit par la destruction et la mort. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il a en horreur l'orgueil, mes chers amis, et ça c'est la destinée des orgueilleux. Donc nous allons voir ici l'effet que ça a causé chez un homme qui est sous l'influence de cet être invisible, comme nous tous, on l'est. Au chapitre 28 d'Ézéchiel, nous pouvons commencer au verset 1 et nous allons voir les effets de cette influence, de cet être, je n'ai pas besoin de vous expliquer tous les détails, mais qui est le prince du pouvoir de l'air, qui nous transmet ses attitudes d'orgueil, de séduction, de tromperie, dont il est victime lui-même de ces séductions et il nous les transmet parce que lui, il est grand séducteur. Et nous, on est des victimes, mes amis, nous tous, moi-même, je le sais, mes chers amis. Donc, il faut prier à Dieu qu'il nous donne cette clarté d'esprit pour pouvoir avoir un cœur contrit, pour pouvoir être pauvre en esprit, comme le Christ l'a annoncé dans le sermon de la montagne. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, dit au prince de Tyr. » Ici, on va voir, c'est quelqu'un, c'est un être humain, L'autre est appelé un chérubin protecteur. C'était un être angélique et qui était composé d'esprit, de substances spirituelles. Ici, on va voir, il s'agit d'un être humain qui est sous l'influence directe du même être. Et nous allons voir qu'il est victime de la même séduction. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, « Je suis Dieu ». Donc, tu le vois, vous le voyez là. Ton cœur s'est élevé, c'est-à-dire, il a un concept de lui-même qui ne correspond pas à la réalité. L'orgueil est une séduction. Mes chers amis, on est des victimes de croire qu'on est quelque chose qu'en réalité, on n'est pas. Donc, il dit, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Voilà, il est tellement sous l'influence de cet être invisible qui a voulu être Dieu, qu'il croit qu'il est Dieu. Donc, il a un concept de lui-même qui ne correspond pas à la réalité. Ça, c'est une définition de l'orgueil. C'est une tromperie, mes chers amis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Donc, il croit qu'il est Dieu. Il est tellement, et il s'abuse à tel point qu'il est convaincu qu'il est Dieu. Et Dieu lui répond, je suis assis sur le siège des dieux au sein des mers. Donc, c'est une figure prophétique dont l'apôtre Paul, je ne vais pas chercher cette écriture maintenant, il parle dans la deuxième épître aux Thessaloniciens que l'homme de péché, il va s'asseoir dans les temples des dieux comme s'il était Dieu. Et c'est un être humain qui va être convaincu qu'il est Jésus-Christ ou qu'il est Dieu, mes chers amis. Il va s'asseoir entre les mers. Ça veut dire entre la mer morte et la mer Méditerranée, sur les monts des dieux, comme le dit l'apôtre, comme le dit le prophète Daniel au chapitre 11. Je ne veux pas expliquer ces choses-là, c'est un autre sujet, mais Dieu est en train de nous parler ici du niveau de séduction auquel on peut arriver sous l'influence de cet être spirituel. Et nous sommes tous sous cette influence et nous savons cette nature dans une mesure ou l'autre, mais nous sommes tous victimes de cette séduction. Et il faut donc lutter contre elle et demander à Dieu de nous donner un cœur contrit, comme David l'a dit au chapitre 51 des psaumes, avant la Pâque, mes chers amis, pour avoir cette cérémonie dans laquelle Dieu veut venir habiter en nous, comme le Christ l'a dit, et que notre cœur soit disposé d'une façon propre pour recevoir sa présence et pour avoir ce rituel magnifique par lequel on est transformé dans des enfants engendrés des dieux. On continue ici, il dit, je suis assis sur les sièges des dieux, donc il va s'asseoir sur les temples, dans les temples des dieux, entre les deux mers. Deux mers, vous voyez ça dans le chapitre 11 de Daniel, comme la bête va s'asseoir, va s'installer, et les faux prophètes vont s'installer à Jérusalem, qui est le mont des dieux. Il y aura sans doute un lieu de sacrifice, et il va s'asseoir là, il va arrêter les sacrifices, comme vous le savez bien. Toi, tu es un homme et non Dieu. Ça veut dire que tu te trompes au point où tu crois que tu es Dieu. Et nous, on est tous victimes, dans une mesure ou l'autre, de la même séduction, comme je viens de vous le dire. Et tu prends ta volonté pour la volonté des dieux. Voici, tu es plus sage que Daniel. Donc, l'intelligence, mes chers amis, la connaissance est l'une des sources de l'orgueil quand elle n'est pas accompagnée de l'humilité. Même l'apôtre Paul nous dit au chapitre 8, 1 Corinthiens, chapitre 8, on va voir cette écriture au verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 8, et verset 1. Il dit, première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. » Donc la connaissance par elle-même, mes chers amis, enfle. C'est-à-dire quand on croit qu'on sait beaucoup, vraiment on ne sait rien. L'apôtre Paul il continue là. J'aurais dû pas arrêter de lire parce qu'il nous donne la clé de cette attitude de la connaissance par elle-même. Il faut qu'elle soit accompagnée d'un autre élément. On va le voir tout de suite, mes chers amis. Il dit, au chapitre 8, deuxième partie du premier verset, la connaissance enfle, mais la charité édifie. On se prépare pour la Pâque et les pains sans levain, le pain qui ne sont pas enflés, mes chers amis, dont la connaissance par elle-même, si on ne la pratique pas, devient de l'orgueil et de la vanité. Quand on croit qu'on sait beaucoup et on ne pratique pas devant Dieu avec un cœur humble, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc, quelle est la différence entre la connaissance et la connaissance accompagnée de la grâce? Et on est commandé dans l'Écriture, dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, de croire, croître dans la connaissance et la grâce de Jésus-Christ. Comment peut-on mettre ces deux choses ensemble, mes chers amis, et sans qu'il y ait une contradiction? Second épître de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, la deuxième épître, et nous allons voir le dernier verset de cette épître qui se trouve au chapitre 3 et verset 18. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Comment donc on peut éviter que la connaissance, la sagesse et l'intelligence commencent à devenir une trappe, mes amis, une trappe qui produit de l'orgueil quand on devient sage dans sa propre opinion, mes chers amis? Dieu nous donne une clé assez intéressante ici dans le livre des Proverbes. Nous allons voir, il y a une écriture là, au chapitre 3, verset 34 du livre des Proverbes. On va voir quelle est la condition nécessaire ou comment faut-il avoir la connaissance pour avoir la grâce de Dieu et pouvoir croître dans les deux. Au chapitre 3 et verset 34 du livre des Proverbes, et ce proverbe répété par l'apôtre Jacques, par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre dans leurs épîtres. Donc au verset 33, chapitre 3, versets 33 et 34, voyons ce que le livre de Proverbes nous dit au sujet de la connaissance, mes chers amis, ou au sujet de la grâce de Dieu. La malédiction de l'Éternel, chapitre 3, verset 33 de Proverbes, est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure de juste. Verset 34, il se moque des moqueurs, ça veut dire des arrogants. Il résiste aux arrogants. Il y a une autre traduction qui dit ça. Mais il fait grâce aux humbles. Donc, pour croître dans la grâce et la connaissance du Christ, il faut que la connaissance soit accompagnée de l'humilité. Comment on peut résoudre cette apparente contradiction? Quand l'apôtre Paul nous dit, et nous vient de le lire, chapitre 8 et verset 1 et 2 de la première épître aux Corinthiens, où c'est écrit que la connaissance enfle. Et puis on nous dit qu'il faut croître dans la connaissance et la grâce de Dieu. Je crois que l'une des meilleures explications, je ne prétends pas vous présenter la seule explication, se trouve dans les psaumes 119. Nous voyons comment David, l'homme qui était aimé de Dieu et qui aimait Dieu et aimait sa loi parce qu'il voyait en cela l'expression de l'amour de Dieu. Donc David, il dit à Dieu, tout au long du psaume 119, on ne va pas y aller maintenant, mais il dit et il prie, « Ouvre mes yeux pour que je voie des choses merveilleuses dans ta loi. » Quel était le désir de David et qu'il exprime tout au long du psaume 119? C'est d'avoir la connaissance des statuts, la connaissance des préceptes, la connaissance des commandements, la connaissance de toute la volonté de Dieu pour la mettre en pratique avec de l'humilité. Et il parle qu'il avait été humilié par Dieu, même en ce psaume-là. Donc, quand on acquiert la connaissance par l'intermédiaire de l'étude, avec une passion intérieure de vouloir comprendre la volonté de Dieu, en ayant la connaissance de sa volonté, de sa loi, de ses statuts, avec le seul désir de la mettre en pratique pour plaire à Dieu et pour mieux servir le prochain, c'est comme ça qu'on peut croître dans la connaissance des dieux et croître dans la grâce de Jésus-Christ parce qu'il donne sa faveur aux humbles. Voilà, ça c'est une réponse qui nous aide à clarifier une apparente contradiction, mes chers amis. La connaissance par elle-même enfle, mais si elle est accompagnée de cette humilité qui a le désir de plaire à Dieu en toutes choses, donc, mes chers amis, on peut donc croître dans la connaissance et la grâce en même temps, et la grâce, Dieu la donne aux humbles. Donc, vous voyez l'équation mathématique magnifique de la parole de Dieu. Donc, nous allons continuer ici dans le livre d'Ézéchiel en voyant quels sont donc, comment la connaissance par elle-même est une source de vanité. Les institutions académiques de ce monde rejettent Dieu et on dit, on sait bien que c'est la folie. Et il y a beaucoup d'écritures dans la Bible où Dieu dit que ceux qui rejettent l'existence de Dieu n'ont pas d'excuses et il les attrape dans leur propre connaissance, dans leur propre astuce, mes chers amis. Parce que c'est une vanité qui vient de cet être qui s'est corrompu à cause de sa sagesse, à cause de son intelligence. Donc, si on croit qu'on est intelligent, mes chers amis, il faut chercher à avoir ce cœur, la pauvreté d'esprit par laquelle on utilise des talents pour assimiler la parole de Dieu, pour la mettre en pratique et plaire à Dieu, et se repentir au fur et à mesure que par la connaissance, on comprend nos faiblesses. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire, mes chers amis. On continue alors dans le livre d'Ézéchiel en voyant comment la sagesse est une source de vanité et on doit être très alerte là-dessus, mes chers amis. On continue alors au chapitre 28, Ézéchiel chapitre 28. Il dit, « Voici, tu es plus sage que Daniel. » C'est le verset 3 ou 4. « Rien de secret n'est caché pour toi. » Donc, c'est une connaissance qui produit de la vanité parce qu'il se croit supérieur. Ce n'est pas une connaissance pour faire la volonté de Dieu, mais pour s'agrandir soi-même. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu as acquis des richesses. Voilà, c'est pour agrandir son ego, pour agrandir sa propre vanité. Tu as acquis des richesses et on voit bien que le monde est victime de cela. Et les richesses elles-mêmes, avec la beauté et l'intelligence, sont l'une des premières sources d'orgueil, mes chers amis. Les richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors par ta grande sagesse et par ton commerce. Tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc, les richesses peuvent être une source de séduction de l'esprit. Et on va voir comment le Christ, au chapitre 13 de Matthieu, il nous avertit dans la parabole du semeur sur les périls, sur les dangers des richesses. Quand il explique la signification des épines qui entourent la semence et qui l'empêchent de porter du fruit, nous allons voir chapitre 13 et verset 22 de l'évangile de Matthieu. Chapitre 13 et verset 22. Nous voyons comment le Christ nous avertit au sujet. Je vous ai déjà parlé que la sagesse peut nous tromper quand on se croit quelque chose. Elle nous enfle, mes chers amis, elle nous trompe. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. Voyons au chapitre 13, verset 22, on voit comment les richesses peuvent être une source de tromperie. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étoffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, les richesses nous font croire qu'on est supérieur ou qu'on a le pouvoir, mes amis. Mais Dieu nous avertit, et il avertit le peuple d'Israël au chapitre 8 du Deutéronome de ne pas s'enfler à cause des richesses qui viendraient comme bénédiction que Dieu allait leur donner une fois qu'il allait entrer dans la terre promise. Voyons le chapitre 8. Il dit ici au chapitre 8 du Deutéronome, chapitre 8, et puis on commence au verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années, dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pourquoi ? La grande erreur de Satan, c'est qu'il a cru que lui-même était l'origine de sa beauté, de son intelligence et de ses richesses. Il s'est trompé lui-même. Et Dieu a amené le peuple à travers le désert pendant 40 ans pour leur montrer qu'eux, par eux-mêmes, ils ne pouvaient rien produire. Il fallait que Dieu leur donne le manna pour les nourrir dans le désert. Il fallait qu'ils conservent les chaussures et les vêtements. Ils dépendaient des dieux. Il fallait qu'ils sortent de l'eau, du rocher, pour leur donner à boire. Donc, Dieu était en train de leur dire, « Je suis la source de tout, mes amis. Vous ne pouvez rien faire par vous-même. » Et c'est la conviction et la compréhension qu'on doit avoir jusqu'au plus profond de notre être, que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, comme le Christ lui-même nous a appris. Afin d'être humiliés et d'être éprouvés pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc, s'il allait se soumettre, parce que l'orgueil produit, comme je vous l'ai dit, la querelle, et la querelle produit la rébellion. Il t'a humilié. Donc, nous apprend par les épreuves, il nous apprend l'humilité quand on se sent impuissant devant les circonstances de notre vie. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est de lui qu'on doit dépendre, qu'on doit chercher d'abord les choses spirituelles, mes chers amis, et le reste nous sera donné par surcroît. Donc il faut donner l'ordre des prélations, il faut l'avoir très clair dans notre être. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Donc Dieu est en train de leur démontrer, sans moi vous ne pouvez rien faire. Souvenez-vous que Lucifer n'a pas été éprouvé avant d'avoir reçu tout ce que Dieu lui a donné. Il lui a donné la beauté, il lui a donné la sagesse, il lui a donné l'intelligence, il l'a mis en chef d'entière des anges. Il l'a rempli de pouvoir, il l'a mis auprès du trône des dieux lui-même, mais il n'a jamais été éprouvé avant. Dieu avec nous, mes amis, avec ceux par l'intermédiaire desquels il veut se reproduire lui-même et avoir des êtres spirituels engendrés par la sémence de son esprit, il nous éprouve d'abord, parce qu'il ne va pas permettre à notre Lucifer dans son royaume, mes chers amis. C'est pourquoi l'humilité est la toute première condition pour entrer dans le royaume des dieux. Il faut la démontrer à Dieu dès maintenant, parce qu'on est en train d'être jugé maintenant. Dieu est en train de voir, mes chers amis. Avant de nous donner la gloire, il faut que nous apprenions l'humilité, mes chers amis. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. C'est ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Le Christ même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, nous, on doit suivre son exemple, mes chers amis, pour apprendre la vraie humilité qui ne peut venir que de Dieu lui-même, parce que tout don parfait provient du Père des Lumières. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, je suis en train de lire chapitre 8, verset 7, Deutéronome, chapitre 8, verset 7, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Voilà, d'abord vient l'épreuve, d'abord on apprend l'humilité, ce que Dieu est en train de faire avec nous maintenant, pendant cette vie, avant de nous donner le royaume des dieux et le paradis. Qui en figure, il nous montre ici, pays de froment, d'orge ou de vigne, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour les bons pays qu'il t'a donnés. C'est-à-dire, n'oublie pas quelle est la source de la bénédiction. Si on a de la beauté, si on a de l'intelligence, si on a de la sagesse, si on a de la richesse, il ne faut jamais oublier quelle est la source, mes chers amis. Quand on croit que nous-mêmes, on est nous-mêmes la source de ces choses-là, on se trompe. Et on a un concept de nous-mêmes qui ne correspond pas à la réalité. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Ici, voilà la source qui nous a tout donné. Donc, de même qu'il a fait marcher ce peuple par le désert, il nous fait marcher maintenant, au milieu des difficultés, des épreuves, pour que nous apprenions des leçons profondes, pour que le caractère soit formé, fondé sur l'humilité, qui est la réalité de nous-mêmes, que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas, ne te trompe pas, n'oublie pas d'où vient toute bénédiction. C'est ce que Dieu nous rappelle maintenant, mes amis, à nous, maintenant que nous préparons pour la Pâque, pour pouvoir recevoir le Christ, pour pouvoir garder cette présence en nous. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu nous a donné la connaissance de son plan, mes amis. Il nous a sortis de la tromperie, de la séduction d'Égypte, de l'esclavage, du péché, et il nous donne la vérité. De la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Donc, nous souvenir, tout ce qui est bon vient de Dieu. Nous, on ne possède rien de nous-mêmes. On ne produit rien de nous-mêmes. Tout ce qui nous appartient, c'est nos faiblesses, mes chers amis. Ça, c'est l'attitude de pauvreté d'esprit que Dieu veut que nous ayons. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Voilà ce que Dieu est en train de faire avec nous maintenant, mes amis. Il nous humilie pour que nous apprenions des leçons profondes, pour pouvoir nous donner le royaume des cieux, pour que nous apprenions à être pauvres en esprit. C'est par l'intermédiaire des épreuves, par les moyens des épreuves, que Dieu nous enseigne l'humilité, mes amis. Quand on se sent impuissant, quand on sait qu'on dépend 100% de Dieu pour toutes choses, pour t'humilier et t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Comme je vous ai dit, Dieu, avec Lucifer, il ne l'a pas éprouvé auparavant, avant sa création, bien sûr, ce n'est pas logique, mais avant qu'il lui donne tout le pouvoir qu'il lui a donné. Mais nous allons recevoir un royaume et une dignité encore beaucoup plus haute que celle de Lucifer, mais il est en train de nous éprouver maintenant, comme il a éprouvé le peuple en le faisant voyager par le désert. Garde-toi de dire en ton cœur, voilà, verset 17, mes amis, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est une tromperie, mes amis. Voilà comment Dieu l'explique. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc, même le pouvoir pour faire les richesses, ça vient des dieux. Les richesses elles-mêmes viennent des dieux, et le pouvoir pour les faire vient des dieux. Donc, il faut tout reconnaître, autrement on se trompe. On sera victime de la séduction du diable, mes chers amis, nous tous. afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, et l'un des dieux que beaucoup de gens adorent aujourd'hui, c'est l'argent, mes chers amis, qui nous trompe. Voyons par exemple ce que Dieu dit au sujet des richesses dans le chapitre 6 de l'Épître à Timothée, mes chers amis. Chapitre 6, première épître à Timothée, chapitre 6. Nous allons voir ici au chapitre verset 17, mes chers amis, excusez-moi. Première épître à Timothée, chapitre 6 et verset 17. Voyons l'avertissement que Dieu nous donne par l'intermédiaire de l'apôtre Paul au sujet des richesses. Quoique la plupart d'entre nous, on n'est pas riches, mes amis, mais de toute façon, on est toujours en risque de devenir proie de la séduction, mes amis. Chapitre 6, verset 17. Et maintenant, cette séduction est spirituelle parce qu'on vit à l'époque de Laodicée, mes chers amis, où la richesse de la connaissance enfle, parce qu'il y a une tiédeur spirituelle qui veut dire que cette connaissance n'est pas mise en pratique, qu'on l'a acquis, mais qu'on ne la pratique pas du cœur. Donc ça enfle, ça produit de la vanité, ça produit de la querelle, ça produit un esprit d'indépendance, ça produit de la division, ça produit la rébellion contre le gouvernement des dieux. C'est ce qu'on est en train d'observer sur la scène de l'Église aujourd'hui, mes chers amis. Il faudra le feu de la grande tribulation pour que Dieu puisse fondre et parfaire la foi de ses enfants. Et nous, si on n'a pas cette humilité, cette attitude d'enfant devant Dieu, on sera mis au feu, mes chers amis, de la tribulation, pour qu'il y ait cette transformation et que cet orgueil, que l'orgueil et la fierté disparaissent de l'épouse du Christ qui doit être soumise 100% à son gouvernement comme la tête. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne veulent pas, mes amis, se soumettre à l'autorité du Christ qui est dans l'Église des dieux, le pilier de la vérité, mes chers amis. Il y a cette attitude de vanité, de rébellion, d'indépendance. On ne veut pas se soumettre, et il faut être fidèle à ce qui est petit. Si le diable, comme l'a vu, s'est rebellé contre un chef parfait qui est défini avec le mot « amour », si ça ne lui a pas suffi, Dieu, il veut savoir si nous, on est fidèles un peu de choses. Si on démontre à Dieu maintenant qu'on se soumet même à des chefs imparfaits, mes chers amis, dans cette époque, même à des chefs imparfaits, mais qui enseignent la vérité. Dieu n'est pas en train de nous dire qu'on doit suivre l'homme au lieu des dieux. Non, on suit le Christ. Mais il est en train de nous observer si on est fidèle en ce qui est peu, dans de petites choses, pour nous confier les grandes choses et l'éternité. Pour nous, il aura donc la preuve. Il y a une formule mathématique comme celle qu'on a vue. L'orgueil engendre la querelle. Mais il y a aussi une autre formule mathématique biblique qui dit « Celui qui est fidèle en ce qui est petit, en peu de choses, il sera fidèle dans les grandes choses. » Et Dieu, maintenant, il est en train d'examiner son peuple et de voir quelle est notre attitude vis-à-vis du gouvernement des dieux. Si on ne l'apprend pas maintenant, il nous donne encore la chance d'être humiliés et d'être persécutés et d'être mis à mort jusqu'à ce qu'on ait humilié devant Dieu en nous soumettant 100% à son autorité pendant une grande tribulation où il faut donner notre vie. Oh, on peut le faire maintenant en se soumettant à la volonté de Dieu. Donc ces richesses de connaissances, mes chers amis, elles se manifestent maintenant dans l'Église des dieux. C'est pourquoi il y a tellement de divisions, c'est pourquoi il y a tellement de groupes, mes chers amis, c'est pourquoi on n'a pas l'unité au sujet de laquelle le Christ a prié à son Père. Donc, l'une des raisons par laquelle ça arrive, c'est les richesses spirituelles, pas seulement physiques. Donc, on peut tous être victimes de cette séduction. La connaissance enfle, mes chers amis. Si on croit qu'on le sait tout, si on croit qu'on connaît tout, si on croit qu'on ne faut pas un corps dans lequel on remplit une fonction avec l'humilité et la soumission au gouvernement de la tête par l'intermédiaire des leaders que le Christ a mis dans l'Église, on a encore des leçons profondes à apprendre dans les années à venir si on veut régner avec le Christ en soumission à la tête pour l'éternité. Dieu ne va pas permettre un autre diable, mes chers amis. Et donc, comment on le prouve? Maintenant. Celui qui est fidèle maintenant, il sera fidèle pour l'éternité. Donc, il faut montrer à Dieu de maintenant quelle est notre attitude de soumission à son gouvernement, mes chers amis, même s'il est imparfait. Donc, une fois qu'on se soumet à un gouvernement imparfait, qu'est-ce qu'on est en train de montrer à Dieu? Une fois que le gouvernement sera parfait, dirigé directement par le Christ, personnellement, comme la tête pour l'éternité, il n'y aura pas de rebelle, mes chers amis. Mais il faut le prouver maintenant. Maintenant. Et cette connaissance qu'on a reçue pendant des années, si on ne la met pas en pratique avec l'humilité, en cherchant à faire la volonté de Dieu, comme je vous l'ai dit, comme c'est décrit dans les psaumes 119, elle enfle, elle produit la querelle, elle produit un esprit d'indépendance, mes chers amis. Et ici, l'apôtre Paul, une fois de plus, 1er épître à Timothée, chapitre 6, verset 17, nous allons voir quel est l'avertissement que Dieu nous donne par son intermédiaire. 1er épître, chapitre 6, à Timothée, chapitre 6, verset 17. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. » Pourquoi? On voit qu'il y a une séduction dans les richesses. On croit qu'on est dans un niveau supérieur quand on ignore d'où est-ce qu'elles viennent. Elles viennent des dieux et le pouvoir pour les faire vient des dieux. C'est donc une tromperie quand on croit que nous-mêmes, on est l'origine des richesses ou du pouvoir ou de l'intelligence ou de la beauté. Recommande aux riches du premier siècle, du présent siècle, de ne pas être orgueilleux parce qu'il y a cette tentation. Je le dis par moi-même parce qu'on est tous en danger d'être victime de cette séduction et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, c'est-à-dire pas faire un faux Dieu qui est de l'idolâtrie, et c'est de l'idolâtrie l'amour de l'argent, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions, comme on l'a expliqué au chapitre 8 du Deutéronome. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc, voilà. Donc, un avertissement que Dieu nous donne aujourd'hui au sujet de l'orgueil, mes chers amis. On le voit au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Vous le connaissez bien, à l'église de Laodicée, le Christ nous dit au chapitre 3, verset 14 de l'Apocalypse, écrit à l'église de Laodicée, « Voici dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, c'est-à-dire il ne se trompe pas, il est témoin fidèle et véritable, le commencement de la création des dieux. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis « je suis riche ». Donc, c'est une séduction. La connaissance, la richesse en connaissance peut nous séduire. Je me suis enrichi. On connaît tout. On connaît le plan des dieux. On connaît toutes les doctrines. Mais si on n'a pas cette attitude dont je vous ai parlé, que David avait au 119, c'est une passion pour connaître, seulement pour appliquer à nous-mêmes, être un sacrifice d'odeur agréable devant Dieu parce qu'on fait sa volonté comme le Christ. Ça, c'est le but de la connaissance, mes chers amis, appliquée à nous-mêmes, tout d'abord. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin d'une église, je n'ai pas besoin d'une organisation, je n'ai pas besoin des ministres, je me suffis à moi-même. Cette attitude est bien répandue aujourd'hui, mes chers amis, sur la scène de l'Église des dieux. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, c'est une séduction de l'esprit. Les richesses nous séduisent, les richesses nous trompent, bien qu'elles soient matérielles ou spirituelles, s'ils ne sont pas appliqués à nous-mêmes avec un cœur humble qui veut servir le Christ. Je te conseille d'acheter des mois de l'or éprouvé par le feu. Donc, c'est comme ça, c'est par le feu de la tribulation que Dieu va éprouver le feu, éprouver l'or et le purifier, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc, ce n'est que par les épreuves, par les humiliations, comme l'a vu au désert, pendant que le peuple traversait le désert, que Dieu les a humiliés et les a appris, qui était la source de tout bien, pour que nous, on ne croit pas qu'on est la source et qu'on se trompe nous-mêmes. Et de collir pour oindre tes yeux, parce que les richesses nous trompent. L'orgueil est une séduction qui nous aveugle. C'est bien clair. Afin que tu vois, mais je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Donc Dieu nous invite à nous repentir maintenant, à prier qu'il nous donne un cœur humble, qu'il nous apprenne la pauvreté d'esprit, qu'on apprenne l'exemple du Christ. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pourquoi il dit qu'il est à la porte? On a vu au début que l'orgueil est une abomination pour Dieu. Même chez ses enfants, quand il y a de l'orgueil, il ne peut pas y avoir un rapport intime avec le Christ, comme celui qu'il veut avoir avec nous et celui qui est représenté par la Pâque. La Pâque s'approche, Dieu veut qu'il y ait de la place pour lui et son Père par l'intermédiaire de l'Esprit en nos cœurs, et que nos cœurs soient prêts à le recevoir parce qu'on a un cœur broyé, parce qu'on demande à Dieu de nous donner un cœur propre et un cœur qui connaît la repentance et qui n'est pas séduit par la vanité. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, mes amis, j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je crois que je vous ai dit suffisamment. On aura l'occasion d'en parler encore de ce sujet incroyable, inépuisable dans un certain sens, le sujet de l'humilité et de l'exemple du Christ, mes chères sœurs et frères.